pour la dernière session. Alors là, deux journalistes ensemble, là, c'est terrible.
Non.
Allez, on y va. Let's go. On a le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir Olivier Moko. Olivier est quelqu'un de singulier dans notre dans cet espace parce que c'est quelqu'un qui est aussi autant reconnu dans l'espace des créateurs de jeux que dans l'espace de la recherche, la science du jeu, et donc qui a cette double compétence que pas grand monde compte, parce que ou bien ils sont franchement d'un côté ou franchement de l'autre. Donc, à la fois la capacité à créer des jeux, et jeux aussi sérieux, hein, par exemple, mais aussi à réfléchir dessus. Il avait travaillé notamment sur GTI 4, par exemple, et une réflexion sur ce que peuvent contenir les jeux en termes de messages social et politique, puisque nul n'est parfait, tu es politiste comme moi. Voilà, donc c'était très important et c'est pour ça qu'on lui a demandé de venir en keynote, comme on dit en bon français, c'est-à-dire en quelqu'un qui, en une trentaine de minutes, 35 minutes, pourra nous faire un petit panorama de la question de la relation entre le jeu vidéo et les fake news, sachant que, et je ne veux pas évidemment dévoyer le sujet, mais que j'ai pu constater dans mes recherches sur la désinformation que le jeu vidéo pouvait être extrêmement utilisé, que ce soit en recyclage d'images issues de jeux vidéo, ou que ce soit soi-même de la désinformation à travers le jeu vidéo, ou même les forums aussi de gamers. Enfin bref, il y a effectivement un objet là, un vrai sujet, et je suis ravi que tu aies accepté de venir nous présenter ta réflexion sur le sujet, parce que je pense que tu es le plus compétent pour le faire. Merci à toi.
Merci beaucoup, Arnaud. On va voir. Donc, merci pour cette invitation. En tout cas, je suis ravi de pouvoir échanger ici dans ce beau lieu sur les enjeux autour de la fabrique de la fausse information et la place et le rôle du jeu vidéo. Donc, je suis Olivier Moko, donc je suis président de l'Observatoire européen des jeux vidéo, qui est un centre de recherche que j'ai créé pour justement étudier la place de la société ou du jeu vidéo dans la société, ça dépend des jours, mais voir un petit peu comment ça, cette industrie qui est en place d'être une des premières industries culturelles a un impact sur la vie de chacun et la vie de, aussi des représentations sociales et globales. Et je suis aussi président d'une agence de studio de jeux vidéo en fait, de South Game, qui s'appelle Gaming Society. Et dans ce cadre-là, on a réfléchi, on a fait des jeux en éducation média, on a travaillé notamment sur 2-3 versions de ces jeux pour décrypter, analyser comment est construit une news, un média sur les réseaux sociaux, de différentes façons, etc. On a travaillé aussi sur différents projets de recherche. Voilà, c'est un sujet qui nous est cher, mais aussi sur d'autres. Je vous passe les détails parce qu'on n'a pas trop de temps, mais grosso modo, l'idée étant là de découvrir comment les infos sont fake ou pas fake, mais aussi les biais cognitifs, etc., etc. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est quelque part comment on en est arrivé là. Tout simplement d'avoir le président des États-Unis qui décide de se mettre en scène de manière glorieuse et très référencée, c'est surtout ça qui est important, en tant que soldat de Halo, voilà, qui va être celui qui va donner le pouvoir aux joueurs. Alors ça peut paraître anodin, ça peut paraître rigolo, mais c'est l'aboutissement de plusieurs années et de plusieurs choses qui traduisent finalement l'évolution du gaming et la place du jeu vidéo dans notre société. Qui nous invite justement à réfléchir d'abord, avant de voir pourquoi on a eu ces fake news et cet art du fake en plus long, pour revenir peut-être sur tout ce qui va être la création des news games, puisque avant les fake news, il y a eu les news games, qui était un moment assez intéressant, qui m'a d'ailleurs fait penser, voilà, le New York Times aujourd'hui c'est quoi? C'est peut-être la première plateforme de jeux vidéo. Je vous dis ça évidemment de manière provocatrice, mais si on regarde le temps passé, aujourd'hui, les gens passent plus de temps sur Wordle qu'à lire des articles du New York Times. Alors, est-ce que c'est un éditeur de jeux? Est-ce que c'est un journal de renom. C'est une vraie question, c'est intéressant. Alors, c'est pas ancien, on a toujours eu les mots croisés dans la PQR, on a toujours eu des petits jeux sympas, mais là, ça prend un volume, une masse non négligeable, et c'est vrai que ça interroge sur la place du journalisme aujourd'hui, notamment à l'ère du numérique, et sur ce qui étend son emprise, et qu'est-ce qui est aussi le phagocyte d'une autre manière. Donc, si on regarde le news game, en fait, ou l'histoire du jeu vidéo et l'intersection avec le journalisme, c'est qu'on a une double logique. Il y avait deux façons d'appréhender le lien. Le premier, c'était grosso modo, ben, on est dans un processus de numérisation, donc est-ce qu'on va essayer de gamifier l'information, sa mise en scène, donc en faisant des infographies interactives, parfois en faisant même jusqu'à des jeux vidéo, hein, qui a eu des initiatives. Ou alors on se dit, est-ce qu'on va mobiliser plutôt le lectorat par des techniques, soit du jeu vidéo, soit en mettant du jeu. Là, le New York Times, on est à la fois souvent à l'intersection des deux, soit d'un côté, ben justement, ils proposent des contenus ludiques dans les abonnements, soit ils font aussi des infographies assez ludiques, ils font des expérimentations assez sympas sur leur version numérique. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que voilà, ça a été quelque chose qui a longtemps existé et qui a plutôt été du côté de structurer les pratiques plutôt que mettre en scène l'information. Donc les news games existent, donc c'est l'ouvrage de référence dont je vous remets la une de Yann Bogost qui est vraiment intéressant, qui essaie de réfléchir que finalement, pose la question, c'est qu'aujourd'hui on a des outils de production qui permettent de mettre en scène l'information différemment, mais malgré tout, il y a quand même tout un travail de rédaction, de révision, de tournage des vidéos, des sons enregistrés qui doivent être diffusés, etc. C'était en 2012, aujourd'hui... Je suis un peu plus sceptique sur les frontières, notamment sur la production des images, etc. La question, c'est qui va les produire, comment produire toutes ces images-là, et finalement, est-ce qu'on a encore des news games? Est-ce qu'on a des news games qui sont produits par les instituts, on va dire, les médias classiques, ou est-ce qu'on a d'autres choses qui sont en train d'émerger? Parce que c'est tellement facile aujourd'hui de produire tout ce qui est évoqué là que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont commencer à utiliser ça. Si on revient là-dessus, alors là, c'est des différents jeux. Donc Wordle, il y a vraiment cette idée d'utiliser d'abord les jeux vidéo comme un outil mis en forme de l'info, beaucoup de jeux de caricatures de presse, des reportages, des mots croisés, des choses comme ça. Là, c'était un petit jeu qu'on avait fait pour la Nouvelle Obs, qui était Be My Savior. On travaillait sur les plans sociaux, c'était à l'époque sous Montebourg, donc un petit moment. L'idée, c'était, voilà, c'était de se dire, est-ce qu'en faisant un petit système, on peut finalement l'actualiser en fonction des actualités. Il y a eu beaucoup de jeux, alors les cartoon games qui sont finalement une évolution de data visualisation avec un côté un peu cartoon, parodie, qui s'inscrit finalement dans le dessin de presse, assez classique, qui fonctionne. Ça marchait beaucoup une époque quand il y avait Flash, on faisait beaucoup de news games comme ça, assez sympa. C'est un peu plus évolué, ça s'est structuré, on en voit peut-être moins qu'à une certaine époque. Par contre, on voit de plus en plus d'utilisation des données pour faire des data vis et voire même des explorations de données de plus en plus ludiques. On a eu aussi pas mal de jeux documentaires, alors soit qui venaient du monde du jeu vidéo qui s'y en emparaient. Là, vous avez 1779 sur la révolution libanaise, qui montre la bascule. Donc, c'est un Libanais qui est l'ancien directeur cinématique de GTA, qui a fait son jeu indé pour justement traduire ce moment un peu clé de l'histoire libanaise. Vous avez aussi This War of Mine qui est très documenté sur les guerres à l'Est. Et puis aussi, vous avez Enterrement à mon amour d'un journaliste, Florent Morin, qui a quitté le journalisme pour faire des jeux du réel. Voilà, donc il fait plusieurs jeux vidéo maintenant, mais toujours avec cette volonté de traduire ce lien avec la réalité, d'en faire un moyen d'expression. On avait fait aussi, alors à l'époque, ça c'était Format Monet, c'était un jeu documentaire aussi, fait avec notamment David Dufresne. David Dufresne qui s'était lancé dans cette incroyable aventure. Moi, j'avais eu la chance de l'accompagner sur la partie gamification à l'époque. Et c'était un documentaire en ligne, interactif, avec un jeu à la fois d'enquête et à la fois un jeu multijoueur. Bon, c'était assez démentiel. Il l'a tenu pendant 3-4 années pour ensuite faire d'autres choses tout aussi incroyables. Donc, c'était une autre mise en scène. C'était à l'époque aussi du transmédia, du web documentaire, où on explorait des nouvelles formes narratives. Chose qui démarche, je ne sais pas si elle a disparu, si elle a été mise ailleurs, mais en tout cas qu'on voit un petit peu moins fleurir dans les institutions classiques. Donc qu'est-ce qui a changé depuis 2012? Le South Game est devenu moins exploratoire, ok.
quelque part. Donc c'est plus structuré, en fait, la formation, la com, tout ça fonctionne. L'abaissement des coûts d'entrée dans la fabrication des jeux vidéo, alors, est drastiquement chuté. Hein. Aujourd'hui, tout le monde peut faire un jeu vidéo. Mais vraiment, tout le monde. Il n'y a pas de... Il n'y a même plus de contraintes réellement de savoir-faire. Il y a une accentuation de la, on va dire, la réalité de synthèse, on va y revenir, mais c'est que finalement, en hybride, numérique, physique, on ne sait plus forcément opposer réel, virtuel, on a une espèce de continuum systématique. Alors là, c'est assez extraordinaire de voir aussi peu d'écrans levés dans une audience. J'ai presque plus l'habitude. Il y a la question de l'auteur et de l'autorité qui a évolué. On va y revenir aussi, mais c'est l'autorité en tant ce qui prescrivent et ce qui édicte les normes de ce qui est vrai ou pas vrai, mais aussi ce qui les écrivent, ce qui produisent les contenus et qui sont auteurs de ces contenus-là. Dans un monde où l'économie de la génération par les utilisateurs des contenus est en explosion totale et systématique, qui devient l'auteur et qui fait autorité dans tout cela et sous quel régime? Et enfin, le jeu vidéo est devenu, a passé en 10 ans de quelque chose d'un peu marginal à une industrie culturelle majeure et un outil de communication politique. Donc, passé cette entrée, on va quand même partir d'un postulat, c'est que le jeu vidéo, c'est fake. De toute façon, par défaut, quoi qu'on en dise, puisque dans les jeux vidéo classiques, la vérité, c'est pas forcément un sujet, ça peut être un élément de décor. Les exemples d'Assassin's Creed, toute la saga qui se base sur une dimension historique, vont travailler avec des historiens, mais vont à un moment donné tirer un train en disant « bon, maintenant, on passe dans la fiction ». D'accord ? Donc même s'ils ont tout un travail après de muséographie, de partenariat avec les magazines pour retravailler les périodes historiques, il s'avère que c'est un jeu. D'accord ? Donc même la réalité historique, finalement, elle peut servir d'inspiration. Ça a posé débat, d'ailleurs, à l'époque, Jean-Luc Mélenchon s'était fortement énervé sur la façon dont était représenté Robespierre en méchant. Et donc, c'était intéressant parce que ça avait permis du commentaire et d'actualiser. Mais c'est un élément, finalement, de décor. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, le jeu vidéo va déployer aussi une culture de remise en cause de l'autorité. Alors ça, c'est intéressant. On est quand même dans des imaginaires où... les fondements du pouvoir, les fondements de l'autorité sont de plus en plus remis en cause. Si on analyse les contenus, on voit que pendant longtemps, il y avait un suivisme assez fort, finalement, des médias classiques. Donc le jeu vidéo essayait de faire comme le cinéma, essayait de faire même comme les médias, comme le journalisme. Je pense à Call of Duty, tous les Modern Warfare. La mise en scène de la première trilogie Modern Warfare, ça reprend les codes, finalement, des images qu'on voyait sur CNN. L'iconographie, c'est d'essayer d'être le plus... d'être le plus semblable à un traitement télévisuel, journalistique. Et ça, ça a évolué parce que le jeu vidéo s'est autonomisé dans ses imaginaires. Il y a eu des gros jeux à succès qui ont finalement été des jeux de contestation. Là, vous avez une image de Cyberpunk de 1077, mais GTA, par exemple, est une très forte contestation de l'ordre actuel. Et donc, c'est finalement quelque chose qui est intéressant de se dire, ben oui, il y a quelque chose de la remise en cause, rebelles, ou en tout cas contestataires dans ce que l'on joue, et que pendant longtemps, on jouait plutôt les soldats, dans une logique, on va dire, d'observation du monopole de la violence légitime, où on a utilisé en tant que soldat la guerre pour la liberté, etc., à des jeux un peu de libération. On est de plus en plus marginaux contre des systèmes, parfois des corporations, parfois des terroristes, parfois des états voyous, mais en tout cas, il y a progressivement cet imaginaire qui s'est déployé depuis aussi une bonne dizaine d'années et qui a pris le relais des imaginaires beaucoup plus consensuels, alors qu'ils étaient à l'époque beaucoup plus critiqués par les pouvoirs. Autre point, c'est que l'une des spécificités du jeu vidéo, c'est que c'est un régime qui est celui de la simulation. Alors ce point, il est fondamental, parce qu'on associe souvent la simulation à ce que nous vivons dans une simulation. L'ouvrage de Loïc Hetsch est assez intéressant d'ailleurs sur ce sujet-là. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on a quelque chose qui est un nouveau mode d'expression et de mise en scène d'une forme plastique, matière audiovisuelle, qui est basée sur de la relation causale, cause-conséquence. Vous avez un petit système, un petit moteur qui va définir tout ça, et tous les inputs que vous faites, ça donne quelque chose en sortie. Et ça, c'est super intéressant parce que ça introduit l'idée que l'on peut manipuler du cycle. Alors, de manière très pragmatique, niveau 1, avec mon doigt, je manipule du cible. Alors maintenant, on a l'habitude, on scrolle, on manipule de l'écran, mais le jeu vidéo, c'était ce qui initiait à manipuler du cible, à produire du contenu, à donc quelque chose de qui tissait une relation, une gestuelle avec la machine et à l'image. Et ça, c'est intéressant, parce que si on commence à manipuler l'image au concret, ben, ça change le rapport que l'on a au numérique, à sa matérialité et sa réalité. Et ça, c'est un point déterminant, c'est que si l'on touche, et que par le toucher, ça produit quelque chose de l'image, de l'audiovisuel, etc., ben, quelle est cette machine avec laquelle on interagit? Et cette question-là pose une autre question, c'est que le jeu par-dessus, c'est aussi quelque chose qui produit un rapport alternatif à la réalité. Je vous prends cet exemple-là. Je pourrais très bien me dire, avec ce bouchon-là, je vais changer le statut du bouchon et du verre, et je vais m'amuser à faire un jeu de basket. Voilà, tout simplement. Juste parce que je joue à des objectifs et des règles, je change le rapport aux objets. D'accord ? Donc, si on le fait à plus grande échelle, il faut toujours partir de ce truchement premier, c'est que jouer, c'est changer notre rapport à la réalité et aux fonctions primaires des objets. Donc, on rajoute une surcouche, et dans un jeu vidéo, on va avoir trois couches dans lesquelles on va interagir. La manipulation matérielle, la manipulation ludique, que sont les règles, les objectifs, etc., et la dimension fictionnelle, qui elle aussi est fondamentale, parce qu'on va avoir des rôles à jouer dans des univers et des histoires. Et c'est ces trois-là qui font la spécificité du jeu vidéo, et notamment le fait, parce qu'on est aussi dans cette boucle interactive et dans le régime de la simulation présentée précédemment. Donc on voit que finalement tout est fake. Voilà, on crée des mondes artificiels quelque part, et ces artifices-là sont malgré tout massivement joués. Aujourd'hui c'est 1 Européen sur 3, vous avez les statistiques de la commission qui sont sorties, en moyenne 2 heures par jour, et puis un âge moyen, alors c'est pas 27 ans, c'est 37 ans en Europe et 40 ans en France. Donc ça pose aussi la question de se dire, mais le jeu vidéo, qui joue au jeu vidéo ? La tendance, on est encore sur les anciens imaginaires, qu'on voit, c'est les gamins qui jouent. Les gamins ne jouent presque plus au jeu vidéo, ils scrollent. D'accord ? L'ennemi du jeu vidéo, c'est TikTok, hein. C'est clair et net, ce qui fait du mal, c'est les réseaux sociaux, et le jeu vidéo est en compétition directe, mais les gamins jouent à la limite à Fortnite, à Roblox, mais ils ne jouent plus vraiment au jeu vidéo. Par contre, ceux qui jouent, bah, ils commencent à être un peu vieux, quoi. De plus en plus vieux, et c'est plus nous que les plus petits qui jouent. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, les nous pouvons transmettre à des enfants, mais il y a quand même toute une croyance à avoir en tête, c'est que à combattre, c'est que voilà, le jeu vidéo, c'est pas quelque chose pour les enfants, c'est quelque chose pour les adultes, et massivement pour les adultes. Ce qui explique aussi qu'on a peut-être de plus en plus d'imaginaires, de rébellions, de contestations, plus durs, plus âpres et plus matures. C'est donc, quelque part, une industrie culturelle massive et un instrument de technopouvoir qui va concurrencer la réalité physique. Je pèse mes mots à moitié parce que ce point-là est assez intéressant dans une économie du temps et de l'espace. Où est-ce que l'on est? Est-ce qu'on est sur un ordinateur ou pas? C'est devant une console de jeu ou pas? Et ça pose de nombreuses questions. Et donc, on va essayer de voir les extensions du domaine, justement, du fake. Premier point, tout commence ou tout s'accélère lorsque Steve Bannon découvre ceci, non pas ce monsieur qui casse son ordinateur, mais la rage du joueur. La gamer rage, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que sur les forums de World of Warcraft et dans le jeu en ligne, les gens étaient complètement dingos à un moment donné, prêts à défendre corps et âme leur jeu. Et que dès qu'on les attaquait, ils se mobilisaient. Et il s'est dit, là, il y a un vivier, il y a des gens incroyables qu'on peut mobiliser. Ça s'est révélé pendant le Gamergate. Le Gamergate, c'est un moment de l'histoire du jeu vidéo où il y a une très forte remise en cause du traitement journalistique, de l'indépendance des journalistes avec l'industrie, mais aussi des rapports hommes-femmes qui étaient trop bien, qui étaient dévoyés, surreprésentation de la femme-objet, etc. Bref, une crise dans le jeu vidéo qui a vu émerger à la fois une tendance de remise en cause du gaming pour un gaming plus progressif et à la fois un mouvement beaucoup plus conservateur. Et Steve Bannon a considéré que c'était pour lui une opportunité assez incroyable. Et c'est vrai que c'est important parce que jouer, c'est s'investir en ligne et hors ligne. Ça, c'est ça qui est important et c'est quelque chose de très communautaire. C'est pas une pratique que solo, c'est une pratique avant tout communautaire. On doit faire des choses ensemble, on doit échanger, discuter, etc. Et d'ailleurs, les gens qui sont souvent dans des situations de changement de vie, seuls, dans un nouveau lieu, vont aller en ligne pour jouer. Souvenez-vous le Covid, ou même l'OMS trouvait ça extraordinaire de jouer, parce que bah, c'était peut-être le seul espace social qui nous restait, c'était le jeu vidéo, et tous les jeux en ligne qu'on pouvait avoir, du Zoom apéro jusqu'à des parties d'Animal Crossing et autres. Donc c'était intéressant de se dire qu'on s'investit dans un espace, et ça, c'est pour ça qu'il y a des communautés qui se forment, investi émotionnellement, et ces communautés-là,
vont devenir mobilisables et vont participer à la guerre culturelle qui fait rage dans le monde du gaming depuis, on va dire, 2 ans. C'est pas anodin, hein, c'est au moment de la campagne, de la deuxième campagne, de la troisième campagne de Trump, du retour de Trump. Et c'est toute la communauté, tout le monde du gaming s'est mobilisé pour commencer à se dire, ok, enfin toute la communauté, une partie de la communauté s'est mobilisée en disant, voilà, il y a des jeux, on considère qu'ils sont woke, on va les attaquer. Et en analysant les discours, en analysant les représentations, en analysant qui disait quoi, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de magas qui utilisaient le jeu vidéo.
L'une des polémiques de 2020.
Super fort, pardon. Non, c'est bon, je laisse. Il y avait les magas qui s'étaient intéressés à ce jeu français, donc Assassin's Creed Shadows, qui mettait en scène le samouraï Yasuke de l'origine africaine, et de l'autre côté, une héroïne, shinobi, femme. Et ça, ça n'a pas plu, évidemment, à tout un pendant des magas américains qui ont commencé à faire une campagne en ligne assez hard d'attaques systématiques. Jusqu'à, évidemment, proférer des fake news, jusqu'à attaquer ad nominem les personnes qui faisaient les jeux, jusqu'à essayer de monter en épingle le fait que c'était un jeu qui déshonorait le Japon, à mettre en avant des influenceurs, etc., qui étaient là, en disant, vous avez vu, dans ce jeu, on peut monter dans les torii, dans les temples, etc. C'est complètement assommateur. C'est monté quand même jusqu'au niveau du Premier ministre, hein, qui avait besoin d'une polémique pour montrer qu'il était capable d'agir. Et puis surtout, il y avait aussi une problématique au Japon, c'est que les touristes, de plus en plus, montent sur les temples pour faire un peu n'importe quoi. Donc c'était un peu le sujet qui s'est mélangé à la réalité. Mais il y a cette très forte campagne, en fait, s'est développée sur plein d'autres jeux, que ce soit Dragon Age Origin aussi, ou tout récemment Mixtape. Ça continue, mais maintenant, dès qu'un jeu sort, il est passé au prisme du filtre woke, anti-woke systématique. Ce qui est intéressant, c'est si vous analysez, cette communauté en ligne va être très efficace, mais elle est toute petite. C'est 1% de la communauté qui va produire 17% de l'engagement sur le sujet jeux vidéo. Et donc ça veut dire que le côté, on fait de la polémique, on balance du fake, on est très maga, très complotiste, parce qu'à chaque fois c'est un mélange des deux, hein, c'est complotisme et jeux vidéo, grosso modo la recette, hein, c'est une évolution de 4chan, etc. Mais ça va fonctionner. Ça va évidemment fonctionner très très bien sur X, où vous allez avoir des pics d'engagement très très forts et une prime à l'extrémisme. Et ça va aussi fonctionner sur Reddit, sur YouTube, où finalement ça va créer, ça va générer du trafic, de la discussion. Et donc ce marché de la polémique va être totalement alimenté par le gaming, et le gaming va être un premier terreau très très intéressant et très important de guerre culturelle, puisque l'objectif ça va être d'attaquer tout ce qui est considéré comme woke. Prenez un exemple à un autre niveau qui arrive un peu après, ce que subit Jimmy Kimmel, par exemple, avec Disney qui l'a soutenu, ou ça dépend, en fonction ABC qui va être en fonction justement des portefeuilles. Vous avez pensé au lancement de Blanche-Neige, jugé beaucoup trop woke, parce que Blanche-Neige n'était pas assez blanche, il y a eu une espèce de backlash en ligne, donc ils ont essayé de non lancer le film, ce qui a conduit à un échec commercial, parce que un film sans marketing n'existe que peu. Donc ça fonctionne, ils font pression et ils ont ce cri de ralliement, go woke, comme en étant un outil de mobilisation et d'acte vraiment politique. Et il va falloir produire du contenu, il va falloir dénigrer. Et cette logique de dénigrement systématique, ça va se passer par une mécanique assez simple qui va être de déposer des avis négatifs, systématique, complètement faux, complètement artificiel, coordonné et organisé. Et ça, c'est intéressant parce que cette logique du review bombing qu'on appelle cette stratégie-là, elle pose la question de l'autorité, elle pose la question de l'algorithme et de la rétribution. C'est-à-dire que, grosso modo, plus le système est permissif, plus vous allez avoir des amateurs qui vont attaquer, descendre en masse pour faire tomber votre jeu. Donc tout ce qui est Google, Metacritic, c'est totalement ouvert aux amateurs. Vous n'êtes même pas obligé de jouer pour faire une review négative, donc vous faites des attaques sans aucun contrôle. Vous allez avoir parfois des contrôles un peu plus importants où il faut avoir joué au moins 1 heure ou 5 heures pour pouvoir mettre une critique, comme sur Steam, mais tout le monde peut faire des critiques, malgré tout, si vous avez passé 5 heures, ou du moins vous avez lancé le jeu pendant 5 heures, vous faites ce que vous voulez, mais il y a déjà ça. Et puis après, si vous remontez,
En tant qu'influenceur, quand vous êtes un peu plus professionnel, vous allez éviter cela. Influenceur jeux vidéo, quand vous avez des liens avec l'industrie, vous évitez, ou la presse, parce que vous avez une déontologie, vous évitez. Mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les gens, comment ils vont décider ce qui est un bon jeu ou pas, comment ils s'en informent, bah, les Metacritics, Steam, en point important, la presse vidéoludique étant tombée dans les nimbres, alors qu'elle était très puissante il y a une trentaine d'années, et progressivement, c'est délité. Donc on s'est retrouvé finalement dans ces comment les magas organisés vont attaquer tous les jeux pour les rendre complètement négatifs. Donc là, quelques jeux hein, avec les reviews négatives, Dragon Age, Mass Effect, The Last of Us, notamment Assassin's Creed Shadows. Vous voyez, c'est des volumes assez importants. Même The Last of Us, qui est considéré comme un chef-d'œuvre par toute l'industrie, et les joueurs, ils arrivent à avoir 68 000 attaques négatives pour des histoires d'homosexualité. Qui n'ont pas apprécié. Donc, à l'inverse, Stellar Blade, où c'est le retour avec une hypersexualisation et une réification de la femme, alors là, ils ont fait du review bombing positif pour dire que ce jeu est extraordinaire et superbe et peut-être un des meilleurs jeux de tous les temps. Donc, ils manipulent le goût, ils manipulent les notations et c'est un travail assez structuré. Je vous passe les critiques, mais c'est un espace militant et ils vont à chaque fois non plus attaquer le jeu, mais on dit voilà, c'est fabrication historique, c'est le token de diversité, c'est l'inclusion forcée. C'est de la propagande sioniste, c'est de la c'est social warrior, social justice warrior, trash, etc. C'est woke, etc. Bon, c'est tout leur sujet, toutes leurs obsessions. Ils produiront tout le contenu nécessaire pour discréditer. Et c'est pour ça que la dimension sociale, discursive du jeu vidéo comme sujet dont on parle, c'est important. Mais le jeu vidéo est un espace social très très important et un sujet de conversation dans ces espaces sociaux. D'ailleurs, une étude qu'on a commencé à faire, mais avec le Credoc, c'est d'analyser les trends YouTube. La moitié des trends YouTube, c'est gaming. D'accord ? Donc c'est même le jeu vidéo dépasse le jeu vidéo puisqu'il va devenir un sujet de conversation majeur et de production de contenu assez intéressant. Donc là aujourd'hui, on a cette guerre de tranchées assez forte avec ces influenceurs qui en plus vont avoir des relais en France. Français de souche. Risa Berkane, qui vont à chaque fois se refaire les tenants sous couvert d'expertise vidéoludique, vont pouvoir dire, voilà, vous avez vu, c'est beaucoup trop woke, c'est les progressistes qui disent n'importe quoi, etc., etc. Donc on est vraiment sur cette idée, cet imaginaire-là. Donc on arrive à un moment donné où on a un terrain de bataille idéologique. De l'entertainment familial, c'est devenu un terrain de bataille idéologique majeur. On l'a vu au travers, évidemment, au sein même de l'industrie, mais pas seulement, parce qu'on se rend compte que c'est aussi un outil de soft power. Et donc, comme ça devient un vecteur essentiel de soft power, vous avez pu voir par exemple les tractations de l'Arabie Saoudite pour acheter Electronic Arts, le deal est en train d'être clos là, donc ça, finalement ça a été validé, ça va être validé, malgré la guerre, malgré tout ça. Vous avez voilà, la Chine qui pousse énormément, la Corée du Sud qui pousse énormément. Il y a d'autres pays, notamment en Afrique, où ça émerge. En tout cas, c'est un outil de soft power déterminant. Et en plus de cela, dans un moment de guerre cognitive aussi, c'est un outil qui dépasse le soft power, mais qui devient une arme de communication et de propagande. Donc la surface, elle est très importante. C'est à la fois dans les contenus de jeu, à la fois dans l'espace social de la pratique et le sujet de conversation en ligne. Ce qui nous fait basculer dans une économie, je dirais, de l'inattention, parce que l'économie de l'attention, c'est encore tout positif, ça veut dire, c'est faire attention, concentrer, etc. Non, là, le jeu vidéo, c'est une machine à produire du fake, pour ceux qui l'utilisent. Hein. Là, je vous mets des images, par exemple, issues de Armed Assault 3, qui sont utilisées comme des images, comme si c'était du reportage, du documentaire, balancé sur les réseaux, comme une image, « Ah, vous avez vu un tel a bombardé telle partie, etc. » Et ils produisent. Ça vous paraît être un peu ridicule, mais vu que l'on passe 0,5 secondes en moyenne sur une vidéo, dans une économie de l'inattention, bah, ah ouais, j'ai cru voir qu'il y avait un tel pays avait bombardé un tel, qui avait fait tel type de mort. Et ça, c'est un truc assez vieux, mais depuis que les jeux vidéo sont assez photoréalistes, que vous avez des modes pour créer des contenus, des modes vidéo et tout, on a une flopée, mais je vous dis une flopée, assez incommensurable de contenus, de propagande, qui inondent les réseaux sociaux. Et ça, c'est important parce que là, c'est l'outil jeu vidéo qui n'est plus un buzz game et qui est un fake game, qui en tout cas qui est là pour produire du contenu complètement faux et qui n'existe que parce qu'il y a toute cette économie de la création qui a été mise en place. Et ça pose quand même une question, c'est que dans cette économie de la création, ben, c'est un outil, tout le monde peut s'en servir, et ça donne des outils de propagande. Là, sur Roblox, vous avez des flopées d'expériences où vous pouvez revivre les différents assassinats de Charlie Kirk, à Christian, à n'importe quoi, en fait. Donc tout est remis en scène, on peut y rejouer. Alors vous allez dire, oui, c'est l'esthétique Roblox et tout. Oui, effectivement, c'est pas très esthétique, mais c'est peut-être pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est d'avoir un lieu de rencontre, de socialisation. De manière un peu plus large, on voit que le recrutement sur les réseaux sociaux et notamment dans les lobbies de jeux vidéo et dans les forums de jeux vidéo est de plus en plus important pour la mafia, le crime organisé et aussi tout ce qui va être militaire. Donc ça pose quand même une question de notre rapport à l'autre. C'est pour ça que quand on parle d'économie de l'inattention, c'est premièrement, on ne regarde pas finalement ce qu'on fait. C'est le geste qui nous maintient. Et deuxièmement, c'est on n'est absolument même pas attentif à l'autre. On commence à avoir des imaginaires qui se répètent, qui se structurent et qui finalement nous pourrissent un peu. Ça aussi, la problématique de l'économie de l'autorité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, tout est généré par les utilisateurs et les consommateurs, ce qui fait que ça abaisse les toute la chaîne de revenus est problématisée. Ça a commencé par les blogs, ça a commencé par les vidéos, là avec la musique. Et là, aujourd'hui, c'est le jeu vidéo qui est en train d'exploser sur la création amateur, ce qui fait que vous avez plus de 113 millions de gamins, ou d'adultes, pardon, qui jouent tous les jours sur Roblox. 113 millions, c'est une plateforme. C'est presque un réseau social moyen, tel que la définirait l'Union européenne, c'est encore en dessous. Mais c'est un espace de production de contenu avec ses cultures, ses pratiques, ses qualités de jeu, ses qualités de représentation, et qui structure une manière de faire, qui structure un rapport au ludique, qui fait que ben, quand vous apprenez à jouer par Roblox, c'est pas la même chose que d'apprendre à jouer par Mario dans les carrières de vie. Et donc vous n'avez pas les mêmes exigences, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Qu'est-ce que vous allez y chercher? Est-ce que vous allez chercher du jeu ou est-ce que vous allez chercher de la rencontre? C'est souvent de la rencontre. Même si les jeux vidéo ont une dimension jeu vidéo, pendant longtemps, c'est aussi des espaces où on prolongeait la relation en physique, en ligne. Voilà. Si aussi je peux plus jouer dans la rue, mais que je peux jouer chez moi avec mes copains en ligne, ben je joue avec mes copains en ligne à défaut de jouer dans le parc, dans la rue ou je ne sais où, au centre commercial. Donc ça pose quand même des questions sur notre rapport à l'espace public. Et donc cette compétition finalement entre réel et jeux vidéo, c'est nous qui avons créé aussi cette attraction vers ce jeu vidéo en assignant les gens à domicile et les plus jeunes à domicile. Donc voyant cela, ils rencontrent du monde, ils produisent du contenu qui peut être plus ou moins monétisé, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la pratique amateur est de plus en plus rémunérée, donc vous allez pouvoir gagner votre vie en produisant des expériences sur Fortnite, via UFN, via Roblox, via GTA Online, vous avez tout un panégyrique de jeux vidéo qui le permettent. Donc ça c'est côté production, et côté consommation en plus, on peut aussi vous rémunérer si vous jouez. Donc il y a de plus en plus de jeux, alors ça c'était la grande mode des NFT et les play to earn, là voilà, on cliquait, on gagnait, etc. Mais il y a de plus en plus de jeux où vous allez gagner quelques centimes en cliquant. En Europe, bon, mais dans des pays en voie de développement, et je pense notamment aux Philippines, il y a une grosse communauté au Venezuela qui joue sur ces jeux-là parce que quelques centimes c'est mieux que rien. Vous voyez, donc c'est une économie aussi qui existe, qui s'est structurée et qui est présente. Évidemment, vous allez aussi pouvoir avoir des biens numériques, des skins, des personnages à vendre, des choses comme ça, soit au marché officiel, soit au marché noir, ça va dépendre, mais ça existe et ça, c'est quelque chose de structurant. Et puis, il y a aussi le troll to earn, c'est-à-dire qu'on troll, comment on attaque, etc. C'est ça, c'est plus la rétribution d'être MAGA et d'être dans la bonne équipe. Donc cette économie de l'autorité, elle est intéressante parce que ce n'est plus le média classique, c'est pas forcément le professionnel qui va être rémunéré, qui a un statut un peu amateur, auteur, créateur, entre deux, mais en tout cas qui gagne sa vie. Dernier niveau, malgré tout ça, c'est fun en fait. La grosse complexité de tout ça, c'est qu'on pourrait dire que c'est quand même terrible. Ouais, non, mais en fait, c'est cool.
On peut le dire,
mais c'est cool. Et c'est ça le deuxième gros problème, c'est que Fake is a fun game, et c'est assez sympa en fait. Je reviens sur cette citation d'Eric Viennot, qui était game designer, qui était un grand penseur de jeux vidéo, qui nous a quittés il y a peu. Lui, sa spécialité, c'était de faire des jeux type ARG, donc il avait fait des jeux où vous veniez des enquêtes sur le CD-ROM, puis après il y avait des trucs dans Libération, des articles cachés, on vous appelait au téléphone, il essayait de brouiller les frontières, etc. Et il s'est rendu compte, en étudiant le mouvement QAnon, qu'il y avait un point commun assez fort entre les QAnon et le game design. Et c'est vrai qu'à y regarder de près, ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est la question de la fabrique, de la fabrication d'informations, et comment le game design peut être un élément structurant et fondamental pour organiser tout ça. Et c'est vrai que ceci s'est accentué en plus avec l'extrémisation de la culture. C'est-à-dire que vous avez eu les magas, ils ont énormément travaillé la culture gaming, proposant les mêmes, etc. Et de l'autre côté, il y a les dark walk qui commencent à évoluer, qui reprennent exactement les mêmes codes. Donc si les progressistes prennent les mêmes codes que les conservateurs, qui sont des codes dévoyés sur le faux, la production du faux, l'émotion et l'attaque, on n'est pas forcément sorti de l'auberge. Là, je vous ai mis la photo de Times Square, qui est le lieu de culturel new-yorkais où les ultra-conservateurs ont réussi à rendre cool les conservateurs. Et là, on a cette guerre culturelle très forte, qui est une guerre idéologique, en fait, mais qui passe par la mobilisation d'éléments culturels et de la pop culture. Et donc, cette extrémisation liée à la culture gaming fait que, finalement, oui, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer au niveau de tout cela, qui est, encore une fois, la bataille d'autorité. C'est-à-dire que, si vous prenez le fonctionnement d'une communauté type QAnon, etc., premièrement, c'est quoi ? D'un point de vue ludique, c'est créer un jeu d'indices géant. C'est un Cluedo géant, en fait. Votre taf, c'est quoi ? C'est de produire des indices, de chercher dans le monde réel numérique et se dire, tiens, voyons la forme, exactement l'alignement de ces verres en forme de triangle, c'est la preuve que... Et donc, vous fabriquez de la preuve par la collusion d'éléments en ligne, par du Discord par-dessus, par du partage, du commentaire, de la remédiation, et puis vous vous imposez, et puis vous êtes pris dans un groupe de valorisation qui dit « Ah ben vous avez vu, on a produit ceci, c'est la preuve ». Ça ne veut pas dire qu'ils y croient, mais quand vous commencez à y jouer, vous êtes pris dans le jeu. Regardez le nombre de vidéos générées par IA pour montrer, alors à un moment donné, une des tendances était « Qu'est-ce qu'il y a après le mur de glace dans l'Antarctique ?» Ça, c'est assez rigolo. Là, avec en plus les files, les OVNI files que Trump a libéré entre guillemets, ils disent « Ah, vous avez vu, il y a des extraterrestres ». Ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont un peu plus. Ça va régénérer du contenu, et c'est assez marrant à produire, c'est assez rigolo. Puis à consulter aussi, finalement, parce que quand il y a du jeu, l'attitude ludique de regarder, de mener une enquête, ça vous mobilise autrement que de lire passivement. Ah, je réfléchis. Ah ouais, mais attends, il dit n'importe quoi quand même, moi je sais que c'est faux et tout. Donc vous êtes déjà pris dans la boucle et dans la matrice. Et ça, c'est intéressant de se dire que, ben oui, on est en train d'être des nouveaux auteurs, des nouveaux créateurs de contenu et de vision par du gaming, du jeu numérique au sens large, c'est-à-dire que là, on joue, c'est pas du jeu vidéo classique, c'est du jeu vidéo sur des médias numériques, sur les réseaux sociaux, et ça fonctionne super bien, et c'est assez intéressant. Si en plus de cela, vous avez différents univers de référence et différentes histoires sur lesquelles vous rattachez, vous pouvez produire une réalité alternative. Là, cette conspiracy chart qui était une espèce de classification de votre des différentes conspirations est assez intéressante parce que c'est à chaque fois un questionnement de la réalité. Oui, ok, très bien, on a vu que ça existait, le Watergate, ok, bon, c'était pas un complot, c'était vrai, etc. Maintenant, les ovnis, ah, je sais pas, j'ai le doute, il y a quand même des choses, la raison de 51 elle existe. Et puis vous montez un peu, vous quittez la réalité. Michael Jackson, il est pas mort en fait, il est parti avec Elvis dans une île, quoi. Donc on est un peu dans le déni, on commence à échanger. Et puis après, vous évoluez vraiment sur la 5G, la puce, le Covid, etc. Et puis, on peut toujours prouver. Et plus c'est loin, plus c'est encore plus facile de le prouver, parce que de toute façon, c'est hors sol. Jusqu'à arriver à le Deep State, le QAnon, les nazis sur la Lune, etc. Donc toutes les grandes théories complotistes. Et il y a toute cette mystique, entre guillemets, ou ces mythes un peu qui seraient là, qui structuraient notre ordre, qui est ultra présent, dont vous allez progressivement, en montant les marches, essayer de vous intéresser et essayer d'analyser, de dire « Ah ben tiens, finalement, j'aime bien ça, et je vais me focus sur, comme on s'ennuyait tous pendant le Covid, est-ce que Bill Gates, il a plus que 5G, ça n'existerait pas finalement le vaccin, quoi ?» Donc c'est assez intéressant, et nous, ça nous a conduit à faire un jeu dont une erreur réseau s'est produite lors du chargement de la vidéo, qui n'est pas le jeu, je ne sais pas si vous avez accès. Ah ouais.
Pas de soucis. Et c'était, alors, on avait commencé ça dans le cadre d'une game jam sur démocratie et fake news à Barcelone. Et l'idée, c'était, voilà, comment on préfère un jeu vidéo pour lutter contre les fake news. Et nous, on s'est dit, non, il ne faut pas lutter contre les fake news. C'est impossible de lutter contre les fake news, en fait. Et il faut comprendre pourquoi on aime ça. Donc, on est plus parti, non pas sur l'information, etc. On s'est dit, allons jusqu'au bout. L'avantage d'un jeu, c'est qu'on peut faire du gaming et qu'on peut s'amuser. Et on a fait ce jeu-là, Faking. Alors, il n'y a pas vraiment de son, mais je vous laisse. On va prendre des petites photos et on va devoir prouver, créer de toutes pièces des choses un peu absurdes, un peu improbables. Donc là, on est là pour essayer de faire tomber un truc simple, c'est un service de livraison de pâtes. Et on va montrer qu'il y a des problèmes d'hygiène, donc on met des cafards là-dessus. Puis on monte progressivement, on quitte la réalité. De mission en mission, on essaie de comprendre qui on est, comment on est manipulé, comment on fabrique en fait de l'information au fur et à mesure, jusqu'à devenir fou et en avoir totalement ras-le-bol, se dire bon, qu'est-ce que je fais? Je repasse et j'essaie de découvrir en fait tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est à la fois théorie du complot, à la fois fake news, etc. Mais l'idée c'est voilà d'être dans la fabrique de l'information. Complètement rigolote parce que c'est de la manipulation physique, c'est complètement dévoyé. Mais ce qui pose la question, ce que nous intéresse, c'était de réfléchir finalement à la pratique de la subjectivité de l'espace public, etc. C'est qu'aujourd'hui, nous on a fait par exemple des projets de recherche sur métaverse, émotion et démocratie, se rendre compte qu'est-ce qui se joue en ligne. Est-ce qu'on est sur du discursif rationnel? Est-ce qu'on est sur de l'espace public tel qu'on l'entend? Est-ce qu'on est sur autre chose? Et c'est vrai que la notion de pulsionnel est assez intéressante, ou de désir, ou d'émotion, parce que on se rend compte que c'est constitué de plus en plus de logique de désir et pas forcément de logique de raison, que la réalité, c'est plutôt mes réalités qui commencent à s'opposer, et que finalement tout est question d'autorité, de matérialité, de technosubjectivité, c'est-à-dire que grosso modo, le fait de pratiquer le jeu, le fait de produire du contenu, le fait d'avoir des publics, on crée finalement une boucle, une sphère où on est média, et une sphère en plus où le travail de production est aussi plaisant, et aussi marrant, et aussi satisfaisant, et aussi rigolo. Et ce qui fait que, en plus, en ayant une dimension audiovisuelle du jeu vidéo, on arrive finalement dans une espèce de technosubjectivité assez fascinante où, on sait très bien, par exemple, que l'image est un construit, la photographie n'est pas la réalité, pourtant il y a une convention de... là, on arrive pareil, progressivement, à une convention de réalité, et que notre fréquentation de ces univers virtuels pose vraiment question, de manière globale, sur où sommes-nous, et sous quel régime, en fait, sous quelle autorité. C'est-à-dire que quand on voit des gamins dans la rue, jouer sur un téléphone, ou des adultes dans le métro, jouer sur un téléphone, passer du temps en ligne, où suis-je? Sous quelle emprise je suis, pas forcément emprise codalitologique, mais sous quelle emprise politique, technologique je suis. Et c'est ça qui est assez intéressant, de se dire qu'aujourd'hui, avec notre continuum numérique, on est tous avec notre portable dans la main, notre téléphone dans la main, systématiquement, on passe un temps sur les écrans certainement supérieur à un temps hors écran. Si on calculait vraiment, déjà calculer le temps que vous passez sur votre téléphone par jour, rajouter celui au boulot, vous passez plus de temps là que la tête levée. Donc la question c'est où est la réalité, quelles sont les rationalités qu'il y a derrière et finalement comment, quelle forme de subjectivité va apparaître. Ça pose une question, pourquoi? Parce que si la vérité est une recherche objective des choses, si tout est intersubjectivité, où est le commun en fait? Où est le point d'achoppement et comment on va arriver à reproduire, si c'est possible, si c'est pas mort, un espace où on n'est pas pris dans des communautés, dans des groupes, dans nos logiques rationnelles, parce que c'est des logiques rationnelles en concurrence. Il n'y a rien de plus rationnel que de produire la preuve que les nazis sont sur la Lune. Enfin, c'est un travail de production complexe. Les chemtrails, c'est un travail pour prouver, etc. Donc tout ça, c'est pas irrationnel, en fait, mais c'est animé par d'autres logiques, d'autres autorités, et c'est pour ça que le gaming, en fait, a une place centrale dans tout ça, dans le sens où il va à la fois produire de l'image, à la fois produire en rapport au numérique, qui est intéressant,
un rapport à la machine. Il y avait cette étude dans les années 80 de John Fiske, un sociologue anglais, qui ne comprenait pas pourquoi les ouvriers, après avoir passé des heures à pousser des boutons dans les usines à Manchester, allaient dans vos pubs jouer aux jeux vidéo en arcade. Parce qu'ils gagnaient sur la machine. Illusion de contrôle, illusion de pouvoir, l'empowerment. On a longtemps entendu parler d'Internet comme système d'empowerment. Ouais, très bien. T'as le pouvoir, mais un pouvoir sans pouvoir, c'est t'as le pouvoir de faire, mais tu reboucles pas sur la réalité. Et ça, c'est intéressant parce que le jeu vidéo, c'est ça, c'est pouvoir de faire. Ça a donné l'empowerment. Les gens sont en plein empowerment, mais qui ne bouclent pas sur la réalité. Donc, c'est un pouvoir hors sol. Mais c'est fascinant parce que justement, on produit ces contenus, etc. Donc, c'était ce petit panorama pour essayer de voir un peu le lien entre jeux vidéo, fake news, fabrique du fake, et de se dire que voilà, on a une culture qui est présente, une culture qui est finalement encore un peu sous-évaluée. C'est pas très grave, ce qui est intéressant, c'est les infrastructures qu'il y a derrière, c'est comment ça structure notre rapport à la machine. Et que finalement, j'aurais presque tendance à dire que le jeu vidéo a donné des petits. Je pense que la consommation des médias sociaux est un dérivé du jeu vidéo, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas regarder un fil TikTok si on vous met les mains dans le dos. C'est impossible, c'est une torture. Par contre, si vous scrollez, là, ça devient le retour de l'empowerment, de l'emprise, la capacité à faire. Et cette illusion du faire, elle est assez intéressante parce que ça nous maintient dans ce système-là et qu'on va avoir un continuum entre ces créateurs de contenu, images, sons, jeux vidéo, les boucles dans lesquelles on va les consommer, et finalement une économie comme ça qui fonctionne plutôt bien. Alors, on n'a pas abordé la question de l'IA, mais l'IA dans le jeu vidéo, évidemment, est omniprésente, que ce soit pour produire du contenu, abaisser encore plus les coûts, on va le voir. Et puis, il y a d'autres choses qui émergent, comme les world models et les mondes sphériques que l'on parcourt, où on essaye de se dire, est-ce que c'est du jeu vidéo, de l'image vidéo, on ne sait plus. En tout cas, il y a cette tendance, en tout cas, à abaisser la qualité de l'interaction. Ça, c'est vraiment très important. La qualité de l'interaction baisse, les règles du jeu baissent, la qualité des contenus ludiques baissent pour de l'expérience interactive simple, répétitive, avec de la boucle hyper courte. Donc, quelque part, si le jeu vidéo a induit tout ça, malgré tout, ça reste un refuge, une résistance par rapport à une dégradation de l'interaction en ligne qui est devenue très très pauvre et où, à défaut, complètement hystérique. Merci.